18h-20h,
votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1, ravi de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle édition de votre grand journal du soir jusqu'à 20h. À la une et au programme ce soir, faites-vous partie, vous, des 9 millions de clients d'EasyJet dont les données personnelles ont été piratées. On revient évidemment sur cette cyberattaque d'ampleur dans un instant et c'est dans votre journal, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, le titre en bourse bondit. L'entreprise américaine Moderna annonce que les essais de son vaccin expérimental contre le Covid-19 sont prometteurs. Je recevrai Stéphane Bancel dans 20 minutes. Il est le patron français de ce laboratoire américain. 19h20, il sera l'un des acteurs de l'actu de demain. Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club. Grosse assemblée générale demain sur l'avenir du foot et de la Ligue, notamment les droits télé. Tout cela en visioconférence et ça s'annonce brûlant. Enfin, 19h30, comment allons-nous consommer demain? Circuit court ou vente en ligne? Cette pandémie nous a-t-elle changé, transformé? On en parle avec vous. C'est au 39-21 que cela se passe. Votre grand journal du soir pour ensemble écouter le monde changer jusqu'à 20h. Bien sûr.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les cybercriminels se sont sentis à l'aise et rapidement ont adapté leur petite criminalité très opportuniste aux couleurs du coronavirus.
Pendant le confinement, les pirates informatiques ont adapté leurs méthodes. Les télétravailleurs doivent d'ailleurs rester très vigilants, d'autant que l'on a appris aujourd'hui une attaque de grande ampleur. Elle a visé la compagnie EasyJet. Les hackers se sont emparés des données de 9 millions de clients.
Le oui très prudent du Conseil scientifique pour l'organisation du second tour des municipales le mois prochain. Ni feu vert, ni feu rouge, plutôt un feu orange en fait, nous dira Aurélie Herbemont.
Un scrutin en juin, certains maires en tout cas n'y sont pas du tout favorables.
C'est pas très sérieux. Est-ce qu'on peut faire un scrutin aujourd'hui qui va être entaché à vie de cette confiscation démocratique?
Un nouveau groupe à l'Assemblée, c'est fait. Le symbole est fort. La République En Marche perd donc la majorité absolue.
Au sommaire également, l'étude rassurante de la PHP sur la maladie de Kawasaki qui touche les enfants et qui aurait un lien avec le coronavirus. On sait désormais comment traiter les jeunes patients, nous dira le docteur Jimmy Mohamed.
Les fidèles pourront très bientôt à nouveau se réunir dans les églises, synagogues, mosquées, temples. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte.
On peut même faire comme dans les écoles, mettre une chaise tous les 4 mètres et il n'y a pas de problème. Hein.
Et puis faire un don pour aider votre club de taekwondo, d'aviron ou de tir à l'arc, eh bien c'est possible, une plateforme dédiée vient d'ouvrir, on vous expliquera tout. La Bourse de Paris a terminé ce soir en repli de 0,89% à 4 458 points.
Bonsoir Anissa, bienvenue, le ciel avec vous, toujours agité dans le sud.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Oui, effectivement, on n'arrive pas à profiter de ce magnifique temps sur l'ensemble du pays. Nous avons toujours sur le sud-est, les Alpes du Sud et la Corse, un temps agité avec demain encore de la pluie. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À la une donc, cette cyberattaque de grande ampleur qui a visé la compagnie aérienne à bas coût, EasyJet et ses clients.
Et oui, les données personnelles de 9 millions de passagers piratés. Alors Emmanuel Dutheil, de quoi s'agit-il et est-ce que ces clients d'EasyJet doivent s'inquiéter?
Alors, les pirates ont principalement obtenu des adresses e-mail et des détails de voyage. Selon la compagnie, ils ont réussi à obtenir, entre guillemets, dans seulement 2208 cas, les données de cartes bancaires. Malgré tout, EasyJet parle d'une attaque très sophistiquée. La compagnie dit qu'en raison du Covid, il y a de fortes craintes sur l'utilisation des données personnelles pour des arnaques en ligne. En tout cas, si vos données ont été volées, vous allez être informé par la compagnie, là, dans les jours à venir. Si en revanche, vous êtes fait voler vos données de cartes bancaires, logiquement, vous avez déjà été prévenu par EasyJet. En tout cas, cet incident tombe mal pour la compagnie qui, comme toutes les autres compagnies aériennes, est très impactée par la crise du Covid.
Les précisions d'Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
À propos de cyberattaque, on a beaucoup dit pendant le confinement que le télétravail était une brèche pour les hackers. Suite à cette affaire EasyJet, on a voulu en avoir le cœur net.
Oui, les piratages se sont-ils multipliés pendant les 2 mois de confinement? Salomé Legrand a joint Jérôme Notin, il est directeur général de cybermalveillance.gouv.fr.
D'une manière générale, il n'y a pas eu une grosse déferlante d'attaques ciblées sur les réseaux français des entreprises et des collectivités. Par contre, les cybercriminels se sont sentis à l'aise et rapidement ont adapté leur petite criminalité très opportuniste aux couleurs du coronavirus. On a vu très rapidement l'apparition de faux sites de vente de masques à des tarifs pas forcément prohibitif, puisqu'au final, l'idée, c'était pas de les vendre, c'était juste de récupérer les numéros de carte de crédit des gens. Dès le deuxième et troisième jour, eh bien, on a vu une explosion sur l'hameçonnage, plus 400% dès la première semaine. Ce qu'on a vu apparaître aussi, le retour des rançons logiciels à destination des particuliers. C'est le logiciel qui va chiffrer les données et demander une rançon pour rendre ces données.
Et maintenant, avec le déconfinement, à quoi faut-il faire attention ?
Les télétravailleurs, quand ils vont retourner au sein de leur entreprise, risquent de reconnecter des machines qui n'auront pas été mises à jour de l'antivirus. Et donc là, il faudra faire très attention, les mettre à jour avant de les reconnecter définitivement sur le réseau de production.
Jérôme Notin, spécialiste de la cybercriminalité, joint pour Europe 1 par Salomé Legrand. Alors on parlait à l'instant d'EasyJet. Notez que l'UFC Que Choisir a signé en justice 20 compagnies aériennes, mais pas elles justement, pas EasyJet. Il y a notamment Air France, Transavia, Lufthansa, KLM. Objectif permettre aux passagers dont les vols ont été annulés pour cause de coronavirus d'avoir le droit de choisir entre un remboursement ou bien un avoir. C'est la loi, mais ça n'est pas souvent respecté.
Alors, quand organiser le second tour des municipales, la question qui revient en boucle, c'est le gouvernement qui a reçu ce matin un avis qui compte, celui du Conseil scientifique.
Oui, un avis qui compte effectivement, mais un avis qui n'est pas très clair. En gros, oui, le second tour peut être organisé en juin, mais c'est comme dans tous les contrats, vous savez, il faut toujours lire les petites lignes en bas. Et quand on détaille cet avis, eh bien, on voit qu'en réalité, Aurélie Herbemont, il est urgent d'attendre avant de décider.
Ah oui, il est urgent de bien peser le pour et le contre, car cet avis du Conseil scientifique ne donne ni feu vert ni feu rouge pour un vote fin juin. Que disent-ils d'abord ? Qu'il est difficile d'anticiper une évolution sanitaire pour les semaines à venir, ça pose le cadre. Ensuite, les scientifiques préviennent qu'il faudra une nouvelle évaluation sanitaire 15 jours avant la date choisie. Et si la situation s'est détériorée, attention, envisager une nouvelle interruption du processus électoral. Et ce que pointent les experts, c'est que le problème n'est pas tant le jour du vote. Ils recommandent des masques et visières, voire des parois en plexiglas pour protéger ceux qui tiendront les bureaux, mais plutôt la campagne vraie source de risque. En clair, ils recommandent une drôle de campagne sans meeting, sans tractage ou porte-à-porte et plaident pour le tout numérique. Dans ces conditions, un second tour fin juin, c'est non pour le maire sortant de Tours, Christophe Boucher.
Moi, je suis de l'avis que ce n'est pas très sérieux. Est-ce qu'on peut faire un scrutin aujourd'hui qui va être entaché à vie, enfin pendant les 6 ans qui viennent et peut-être bien plus longtemps, de cette confiscation démocratique ?
Alors, beaucoup de ses collègues disent au contraire qu'il faut tourner la page de ce scrutin le plus tôt possible, d'autant qu'on n'a aucune certitude quant à une situation sanitaire plus favorable à l'automne, par exemple. Bref, c'est une décision éminemment politique que l'exécutif va devoir prendre et le consensus sur la date n'est pas gagné.
Et on suivra ça évidemment. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. À propos de politique, il était en gestation depuis des semaines, voire des mois. Vous en avez parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur Europe 1. Un nouveau groupe vient donc de voir le jour à l'Assemblée nationale.
Oui, 17 marcheurs ou ex-marcheurs qui choisissent de prendre le large. On va en reparler avec Aurélie Herbemont justement dans les grandes voies et qui crée donc ce nouveau groupe baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité.
Alors c'est vrai que le symbole est fort, mais dans les faits, ça ne devrait pas changer grand-chose. La majorité refuse d'y voir un cataclysme. En tout cas, il n'empêche qu'LREM perd de fait, de justesse, sa majorité absolue, même si elle peut toujours s'appuyer sur les députés MoDem et Agir.
Et parmi ceux qui ont décidé de claquer la porte, un nom. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise et figure de l'aile gauche du parti qui explique sa démarche et qui brandit une volonté d'indépendance.
Nous avions pensé en 2017 que nous pourrions travailler davantage avec des groupes parlementaires issus de sensibilités diverses. Le constat qu'on a pu faire avec les 17 membres qui rejoignent ce groupe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça n'était pas suffisamment possible. Et vous avez compris que nos priorités, nous serons l'écologie, la démocratie, la solidarité. Donc, notre but à l'Assemblée nationale sera de rechercher avec l'ensemble des groupes démocrates des majorités sur ces questions-là. Donc, nous serons dans une position indépendante, de liberté absolue. Nous voterons contre les choses qui nous paraissent aller dans le mauvais sens. Nous voterons aussi pour à chaque fois que nous serons convaincus, car nous pensons que dans les oppositions, il y a parfois des postures aussi, comme il peut y en avoir au sein de la majorité. Nous voulons vraiment nous extraire de ça, et c'est vraiment à ça que nous voulons mettre fin, en recherchant des majorités de projets et d'idées.
Alors, Aurélien Taché, membre de ce nouveau groupe donc à l'Assemblée avec Claudia Bertram.
Et on en reparle évidemment à 18h30 dans les grandes voies. L'aide d'urgence annoncée hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron, on en a parlé ici même sur Europe 1 hier soir, à peine sur les rails et déjà englué, en tout cas mal parti.
Oui, parce que c'est un projet qui doit être approuvé à l'unanimité, sauf que les pays du Nord, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark ont déjà fait connaître leur réticence. Le chancelier autrichien notamment se dit prêt à aider, mais avec des prêts et non des subventions.
Il est 18h08 sur Europe 1. La suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Les personnels soignants pourront bénéficier à compter de la semaine prochaine de tests sérologiques sur prescription médicale. Objectif, savoir s'ils ont contracté ou non le Covid-19.
Oui, c'est une annonce cet après-midi du ministre de la Santé. Ces tests seront disponibles à l'hôpital, en EHPAD, en établissement médico-social, mais également en ville. 1 million de masques en route pour Mayotte, annonce de la ministre des Outre-mer en visite surprise dans ce département de l'océan Indien, toujours confiné en raison de la circulation active du coronavirus. On y reviendra dans votre journal de 19h sur Europe 1.
Et on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la maladie de Kawasaki. 144 cas d'enfants atteints par un syndrome proche de cette maladie ont été dénombrés en France depuis le 1er mars. Il y a même eu ce petit garçon qui a succombé vendredi dernier à Marseille. Il avait à peine 9 ans et bien sûr ça inquiète.
Oui, parce que c'est un syndrome mystérieux. Les parents en particulier sont très inquiets. Cette maladie touche des enfants. Eh bien, l'APHP a mené une étude qui est plutôt rassurante et on en parle ce soir avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, nouvelle rassurante, car désormais, docteur Jimmy Mohamed, on sait comment prendre en charge ces enfants.
Effectivement, on avait constaté une petite épidémie de myocardite et cette étude de l'APHP plutôt rassurante. 35 enfants avec ce tableau grave cardiaque avaient initialement un tableau digestif, des gens qui avaient des douleurs abdominales, des diarrhées. On s'est rendu compte qu'ils avaient en moyenne 10 ans et que dans un tiers des cas, ils avaient ce qu'on appelle des comorbidités, un surpoids ou de l'asthme. 90% des enfants ont eu une PCR ou une sérologie positive au coronavirus. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils ont été traités avec des immunoglobulines, aucun décès n'est survenu. Le seul conseil qu'on peut donner aux parents, c'est si jamais votre enfant a des symptômes digestifs, en cette période de l'année, il n'y a quasiment plus de gastro-entérite, il est préférable de consulter votre médecin qui pourra vous rassurer ou vous adresser vers un avis spécialisé.
Merci beaucoup, hein, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve dans les grandes voies ce soir et puis notez mon invité dans quelques minutes. C'est le patron français d'un laboratoire, le laboratoire américain Moderna. Il procède en ce moment à des essais prometteurs sur un vaccin qui permettrait de lutter contre le Covid-19. Stéphane Bancel sur Europe 1 en exclusivité depuis les États-Unis à 18h20.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy sur Europe 1.
À suivre dans votre édition de 18h, le retour des cérémonies religieuses. On y est presque.
Et puis on vous dira comment aider votre club de sport en faisant un don défiscalisé.
Europe 1. MMA, interruption spéciale.
Benoît, toujours pas de scoop.
Si, justement, en ce moment, 200 euros offerts pour la souscription de 2 contrats MMA, un auto et un habitation.
Envoyez la pub.
MMA.
Conditions sur MMA.fr.
Leclerc.
Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres même sur les produits vitaminés.
Et comme les jus ça compte, mercredi 20 et jeudi 21 mai seulement avec votre carte de fidélité, bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur une sélection de jus de fruits et de légumes frais ou ambiants. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Comment sauver les grands mammifères? Éléphants, ours, baleines, pandas, gorilles. Le Figaro Science dresse un état des lieux de ces espèces sauvages en danger d'extinction et présente les expériences et les espoirs des scientifiques. Le Figaro Science vous donne les clés de la connaissance. Le Figaro Science, actuellement disponible chez votre marchand de journaux.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Je vais pas prendre du bio parce que c'est en promo. Si je prends du bio, c'est toute l'année.
Chez Aldi, pas de place aux promos sur le bio. Vous avez bien entendu, zéro promo sur le bio. Mais des prix bas toute l'année, comme par exemple les bananes bio certifiées Fairtrade au prix de 1,99€ le kilo.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Origine Ghana, République Dominicaine, Côte d'Ivoire ou Équateur. Variété Cavendish, catégorie 1. Vendue en sachet à poids variable. Offre valable du 19 au 23 mai dans la limite des stocks disponibles. Et pour continuer à vous protéger, des masques à prix coûtant sont disponibles par lot de 10 directement à la caisse.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et les croyants vont de nouveau pouvoir se recueillir dans les lieux de culte.
Et oui, puisque hier le Conseil d'État en effet ordonné au gouvernement de lever l'interdiction d'organiser des cérémonies dans les églises, les synagogues, Isabelle, les mosquées et les temples.
Interdiction qui avait été mise en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, mais qui a donc été jugée disproportionnée et portant atteinte à la liberté du culte. Ces catholiques lyonnais que vous avez rencontrés tout à l'heure, Jean-Luc Boujon, ont accueilli en tout cas la nouvelle avec joie.
Oui, il y avait beaucoup de sourires chez les croyants que j'ai rencontrés tout à l'heure près de la cathédrale Saint-Jean, hein, dans le Vieux-Lyon. Alors tous, effectivement, ont globalement compris les mesures d'interdiction de rassemblement pendant le confinement, mais pouvoir enfin communier en groupe, c'est irremplaçable, selon Nathalie.
Je pense que c'est une excellente nouvelle, parce que pouvoir se rassembler en communauté, pour nous, c'est fondamental.
Est-ce que ce serait un beau symbole de pouvoir retourner à la messe le jour de l'Ascension ?
Ce serait très très chouette.
Pour Alexis, il aurait même fallu le faire avant. Pour cet étudiant très pratiquant, les catholiques sont des gens responsables.
On attend de la confiance en fait, faire confiance aux croyants dans le sens où ils peuvent tout à fait respecter les gestes barrières, les mesures sanitaires de la même manière que Emmanuel Macron et Edouard Philippe font confiance aux entreprises pour qu'ils reprennent leur activité. Pourquoi est-ce que les croyants n'auraient pas le droit d'accéder à leur culte comme ils le souhaitent?
Voilà, et faire des messes à plus de 10 personnes, c'est tout à fait possible, explique Anne.
En respectant les mesures sanitaires, on peut bien être 200 ou 300 à la cathédrale. Elle est grande.
On peut même faire comme dans les écoles, prendre un mètre, calculer 4 mètres, mettre une chaise tous les 4 mètres et il n'y a pas de problème. Hein. Même reculer les bancs, les espacer de 2 mètres s'il faut. Alors, je pense qu'à Saint-Jean, il n'y a pas de problème. Hein.
Alors le gouvernement devra préciser les modalités de la reprise du culte sous 8 jours, mais déjà les prêtres lyonnais ont reçu du diocèse des consignes très précises sur l'accueil d'un public plus nombreux et ils seront en mesure de les faire appliquer dès ce jeudi pour la messe de l'Ascension, si évidemment le gouvernement le permet.
Le reportage de Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1.
On le sait, hein, le sport souffre lui aussi beaucoup de cette crise sanitaire, pas seulement l'élite d'ailleurs, hein, les petits clubs amateurs, souvent communaux, sont très impactés et certains pourraient même disparaître.
Oui, d'où le lancement de cette initiative baptisée Soutien ton club. Si vous voulez par exemple aider votre club de foot, de voile, d'escrime ou de kayak, eh bien vous pouvez faire un don défiscalisé à partir de 50 euros. Comment ça marche? Écoutez le président du comité olympique, Denis Masseglia.
15% des clubs sont ou vont être en difficulté de trésorerie. Et comme leur activité ne va pas reprendre normalement avant le mois de septembre, on doit donc mettre en place quelque chose pour les aider. On a imaginé une collecte de fonds sous la forme Soutien ton club, alors, qui permet donc d'avoir des dons défiscalisés. 85% du don va vers le club souhaité par le donateur. Mais 10% sont pris pour aller vers un fonds de solidarité pour les clubs les plus nécessiteux, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être aidés par des généreux donateurs. Caisse de solidarité, laquelle est déjà alimentée par le CNOSF qui a décidé de lui octroyer 100 000 euros pour que ce soit un démarrage et pour montrer aussi que c'est le moment de dire « oui, mon club, ça compte et donc je l'aide ».
Denis Masseglia avec Corinne Boulot. Et si vous aussi vous voulez aider votre club, il suffit d'aller sur la plateforme www.soutientonclub.fr, tout attaché.
Merci beaucoup Isabelle Millet. On a tous les éléments. On vous retrouve à 18h30, hein, sans faute. Anissa, le temps, ces journées ensoleillées, comme on aime ça, on en redemande.
Ah ouais, puis alors demain, vous allez voir que ça va être encore mieux, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était printanier. Et bah demain, ça sera estival. Voilà, la journée commence avec quelques nuages bas, des brumes et des brouillards sur les côtes de la Manche. Ces nuages vont très très vite se dissiper. Le soleil brille sur tout le pays demain, sans aucun nuage. Ah, enfin presque, puisque sur le sud-est, encore, nous aurons demain sur la Corse et les Alpes du Sud des petites averses le matin qui pourront s'accompagner de coups de tonnerre. Elles vont s'intensifier, ces averses, dans l'après-midi. Les températures, elles, grimpent encore et on va bien le sentir demain avec 8 à 12 degrés au nord, 10 à 14 en général le matin et jusqu'à 20 degrés demain matin au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, il fait bon, 19 à 21 près de la Manche, 24 à 29 sur l'ensemble du pays, 24 à Bastia et Lorient, 26 à Aurillac et Strasbourg, 27 à Carcassonne, Marseille et Limoges, 28 demain pour Paris et jusqu'à 31 degrés à Cahors.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec dans un instant votre invitée Nathalie Lévy.
Oui, un espoir peut-être. En tout cas, les premiers résultats pour un vaccin anti-coronavirus sont prometteurs, encourageants. Le titre flambe d'ailleurs en bourse, celui de la société américaine Moderna, une société biotechnologique. Je reçois son patron, il est français, la société est américaine, donc Stéphane Mancel est mon invité depuis les États-Unis dans moins de 2 minutes. Claire.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Vous recevez ce soir le patron français du laboratoire américain Moderna qui travaille activement sur un vaccin pour lutter contre le coronavirus. La société a annoncé hier des résultats préliminaires encourageants avant des essais à grande échelle en juillet prochain. Stéphane Mancel est votre invité.
Bonsoir Stéphane Mancel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Alors d'abord, ces premiers résultats encourageants concerne quel type précisément de patients?
Donc c'est des sujets sains, comme tout vaccin.
On donne donc des vaccins à des gens qui ne sont pas malades pour prévenir l'infection. Et donc, c'est que des gens adultes, sains.
Des gens adultes, c'est-à-dire des jeunes, moins jeunes, parce qu'on sait évidemment que le Covid, il est plus dangereux chez les seniors, les plus de 70 ans. C'est cette population-là qui a été testée.
Donc aujourd'hui, les résultats annoncés sont pour des adultes entre 18 et 55 ans. Les adultes entre 55 et 70 ans, et aussi une autre cohorte d'adultes plus de 70 ans, sont en train d'être testés, on n'a pas encore les résultats.
Quand est-ce que vous aurez les résultats complets des essais de cette phase 1 ?
On parle de quelques semaines, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a fait des études dans les personnes âgées sur d'autres vaccins respiratoires, d'autres virus, et on a montré des très bons résultats, donc c'est encourageant, mais bien sûr, il faut attendre, comme toujours, les résultats finaux de cette étude-là.
Alors justement, avant d'en venir à la phase 2, pouvez-vous nous expliquer aux auditeurs ce soir la technologie qui est employée dans votre société biotechnologique Moderna ?
Oui, donc en fait, toute la technologie de Moderna, pour les vaccins, mais aussi pour tous les produits thérapeutiques en oncologie ou maladies rares, est à la base d'ARN messager. L'ARN messager, c'est la molécule qui se situe entre votre ADN et vos protéines dans chacune de vos cellules. Donc en fait, il faut penser un peu à l'ARN messager comme une molécule d'information qui code en fait l'instruction pour une protéine à la fois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée donc un ARN synthétique dans notre usine. Il est injecté donc dans le corps humain. On a maintenant injecté plus de 2000 patients à travers nos différents produits. Et une fois que cet ARN messager rentre dans vos cellules, il est lu par une petite machine de votre cellule qui s'appelle le ribosome, qui fabrique une protéine à la demande. Et donc l'instruction en fait, qui est contenue dans notre ARN messager, c'est une instruction naturelle. C'est-à-dire que dans le cas de ce virus, on code la protéine, une protéine du virus du corona. Pas tout le virus. Donc on ne vous donne pas le virus. Mais donc en fait, vos cellules vont produire la protéine exactement avec la même configuration biologique que si vous aviez une infection. C'est pour ça que la technologie marche si bien.
Cette technologie ARN Messenger, est-ce qu'elle a déjà prouvé finalement son efficacité dans l'histoire ?
Donc on n'a pas encore de produit approuvé commercialement, mais on a aujourd'hui mis plus de 16 molécules différentes en essai clinique, incluant avec les grands laboratoires comme AstraZeneca et MSD. On a aussi eu le support sur plusieurs produits de l'armée américaine ainsi que du ministère de la Santé américaine. On a testé plus de 2000 personnes, donc on n'a pas de produit approuvé. On a maintenant beaucoup de données publiées qui montrent que le mécanisme de la technologie semble bien fonctionner de manière saine pour les gens.
D'accord, alors si on considère, parce qu'on a des surprises hein, systématiquement avec ce virus, eh bien, si on considère que le Covid-19 mute, comment être sûr que l'ARN messager sera toujours efficace, Stéphane Barcel ?
Alors c'est une bonne question. Alors je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la mutation du virus apparaît sur une protéine qui n'est pas la protéine codée dans le vaccin. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact. Si par contre, c'est une mutation dans la protéine qui est codée dans le vaccin, là, il faut refaire le vaccin. Mais l'avantage de notre technologie, c'est comme elle est faite sur donc, cette molécule d'information, l'ARN messager, qui est en fait fait de 4 lettres. Si vous regardez toute la vie, l'ADN, l'ARN messager de tout le monde du vivant, hein, des plantes, des poissons, des hommes, c'est fait avec les 4 mêmes lettres. C'est comme l'informatique, c'est des 0 et des 1, mais la biologie, c'est 4 lettres. Et donc, s'il y a une mutation, il faut juste changer l'ordre des lettres pour représenter la mutation génétique donc, qui est apparue dans le virus. Mais ça, on a déjà montré en début d'année qu'on est capable de faire ça en 30 à 40 jours. Donc, on peut refaire un nouveau vaccin et on peut même mélanger plusieurs ARN messagers dans le même flacon. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le vieux ARN messager, entre guillemets, qui code pour le virus qui circulait avant, qui circulera sans doute toujours dans quelques endroits, pour le nouvel ARN messager qui code pour le nouveau virus, et d'avoir les deux dans le même flacon, dans le même vaccin.
Donc, ce que vous nous expliquez, Stéphane Mancel, c'est que grâce à cette technologie, eh bien, ce process ne sera jamais obsolète. Mais comment vous expliquez une telle rapidité de tests aujourd'hui, chez vous, chez Moderna ? En juillet, des tests donc à grande échelle, alors que les premières injections sur humains datent du 16 mars, par rapport à la recherche classique. Comment est-ce possible ?
Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a premièrement la technologie. Donc, on a mis 2 jours de recherche sur le produit. Alors comment est-ce que c'est possible qu'on passe de 2 jours quand normalement il faut 2 années ? Et en fait, la matière première de la technologie de Moderna, c'est l'information génétique. Donc dans ce cas-là, on a utilisé la séquence génétique du virus mise sur Internet par le gouvernement chinois le 11 janvier. C'est la seule chose dont on avait besoin. On n'a jamais eu le virus dans nos laboratoires. Cette instruction nous a permis d'analyser la protéine qui nous intéressait pour faire le vaccin. On a ensuite mis ça littéralement en faisant un copier-coller avec notre souris sur notre écran entre la séquence mis sur Internet des Chinois et la technologie Moderna, et on a appuyé commande sur un des logiciels qu'on a développé en interne. L'instruction est partie via le cloud dans notre usine qui est située à 10 km au sud de Boston par rapport à nos laboratoires de recherche. Et la production a démarré, et donc 30 jours après, on a envoyé les flacons de qualité clinique, hein, donc prêts à être injectés dans l'homme, on les a envoyés à l'INSERM américain, le NIH de Tony Fauci.
À ce rythme que vous tenez, Stéphane Mancel, parce qu'on a parlé d'un vaccin possiblement à l'horizon 2020, à votre rythme, à vous, avec des essais plus importants, en juillet, sur 600 volontaires, d'autres vaccins fabriqués près de Boston, et avant même qu'ils soient validés, ça veut dire qu'on peut imaginer une date là pour la diffusion du vaccin.
Alors, il dépendra de pays en pays, parce que l'aspect que je ne contrôle pas, bien sûr, c'est les décisions des agences réglementaires de chaque pays, ou de l'Europe, par exemple, qui décident quand est-ce qu'on a le droit de vendre le produit, de le mettre à disposition du grand public. Mais je dirais, nous, on a l'intention donc de démarrer une phase 2 en ce moment, bien d'avoir le feu vert de la FDA, donc sur 600 personnes. On a dit hier que la phase 3, qui sera sur plusieurs milliers de personnes, aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays européens, démarrera en juillet. Donc effectivement, si tout continue à bien se passer, et je fais attention parce que c'est compliqué et ça implique beaucoup de travail de beaucoup de gens, mais ce n'est pas impossible que nous ayons le résultat de l'étude de phase 3, qui est donc l'étude qui permet d'enregistrer aux affaires réglementaires de chaque pays ou région le produit, en fin d'automne, début d'hiver, mais ce n'est pas possible qu'on ait un produit approuvé d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, si vous regardez aux États-Unis, le ministre de la Santé américaine, le secrétaire Hazard, a annoncé vendredi à la Maison-Blanche, à la télé américaine, qu'il pensait que ce n'était pas impossible qu'un vaccin soit approuvé avant la fin de l'année. Et ils avaient bien sûr vu les données de Moderna jeudi soir, parce que le produit de la phase 1 a été testé par les laboratoires de l'INSERM américain. La phase 2 est faite par les laboratoires Moderna, mais ce sont bien sûr la molécule de Moderna.
Merci beaucoup Stéphane Mancel d'avoir répondu ce soir à mes questions depuis les États-Unis pour Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Eh bien, dans un instant, votre rappel des titres avec Isabelle Millet. Puis on décortique l'actu du jour. Ce sont nos grandes voix qui vont s'installer, municipales, frondeurs et aides européennes au programme. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et tous les personnels soignants dans les hôpitaux, les EHPAD ou en ville pourront bénéficier à compter de la semaine prochaine de tests sérologiques sur prescription médicale afin de savoir s'ils ont contracté ou non le coronavirus. Les données personnelles de 9 millions de clients de la compagnie EasyJet piratées, les hackers ont pu accéder aux adresses e-mail, mais aussi aux données de cartes de crédit d'un peu plus de 2200 personnes. La création d'un nouveau groupe à l'Assemblée, le 9e, baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité, il fait perdre sa majorité absolue à La République En Marche. Les travailleurs saisonniers en provenance de l'Union européenne vont pouvoir venir travailler en France sous réserve d'un contrat de travail et du respect bien sûr des mesures de protection sanitaire. Le marché automobile européen poursuit sa descente aux enfers avec une baisse de 76% en avril sur un an. Et puis reprise progressive depuis ce matin pour les salariés d'Amazon en France, retour au travail pour 30% d'entre eux sur la base du volontariat.
Merci Isabelle, on se retrouve à 19h pour un nouveau point complet et même un journal. Avec vous le temps Anissa, ça va bien, ça va bien.
Lunettes de soleil, crème à bronzer pour se protéger. Voilà, ouais, il faut effectivement trop, si en profiter. Sur le trajet, Nathalie. Bon, effectivement, demain, c'est encore une belle journée. Elle sera même encore plus belle que celle d'aujourd'hui. Donc, on peut même dire qu'on va passer un cran au-dessus et ce sera un mercredi estival demain au programme. La journée va commencer avec quelques brumes, quelques brouillards comme aujourd'hui sur les côtes de la Manche. Et puis, toujours sur le sud-est, sur la côte d'Azur, les Bouches du Rhône, les Alpes du Sud et la Corse. Là, un temps un peu plus agité, plus nuageux, avec des averses le matin qui vont prendre un caractère orageux dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est très beau, avec des températures qui continuent d'augmenter, 24 à 31 degrés demain après-midi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h pour décortiquer l'actualité de ce mardi. Autour de vous, Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie, et Jimmy Mohamed, notre docteur maison ici à Europe 1.
Bonsoir docteur.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir à, et bienvenue à Emmanuel Dutheil et à Aurélie Herbemont qu'on retrouve.
Après le docteur.
Bah oui, c'est normal. Ça, on fait ses choix, je les assume.
On voit celle qui va assurer ses arrières.
Mais quand même, c'est à vous peut-être Aurélie et Emmanuel que je vais m'adresser en priorité. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous parle clairement et Aurélie particulièrement. Et peut-être que docteur, vous pourrez aussi compléter sur le plan sanitaire. Parce que voilà, aujourd'hui on a eu une réponse du conseil scientifique qui ne s'oppose pas à un second tour des municipales fin juin, Aurélie Herbemont, qui ne s'oppose pas. Donc c'est un espèce de oui, mais avec un mais très grand, le mais.
Ah, le mais est assez énorme, puisque pour faire un petit résumé du conseil scientifique, c'est vous pouvez essayer, on verra si ça passe.
Voilà. Parce qu'en plus, 15 jours avant, 15 jours,
parce que voilà, le conseil scientifique dit déjà, on ne sait pas vraiment ce que sera l'évolution de sanitaire dans les semaines qui viennent, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une visibilité sur le mois de juin, la fin du mois de juin. De toute façon, ce serait bien de refaire une évaluation sanitaire 15 jours avant la date choisie pour être sûr que ça passe. Sinon, on peut envisager d'à nouveau interrompre le processus électoral. Et puis, la campagne en tant que telle, c'est un petit sujet. Les meetings, en gros, n'y pensez pas. Les tractages et porte-à-porte, si vous ne mettez pas de masque et de visière, on va éviter, faites plutôt du numérique. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites lignes à lire qui font que le gouvernement, maintenant, n'a plus qu'à consulter les partis politiques, consulter les maires pour essayer de trouver quoi faire de ce second tour des municipales qui devient un vrai
l'exécutif
sujet.
L'exécutif qui récupère la patate chaude, mais normale, mais qui se récupère quand même un sacré morceau avec une décision compliquée à prendre.
Hein. Décision extrêmement compliquée à prendre et qui sera vraiment très politique, puisqu'on voit bien sur le plan sanitaire, c'est un peu essayer, on verra. Sinon, on verra plus tard. Mais on n'est pas sûr non plus qu'en septembre, ce serait mieux, parce que c'est ça aussi, avec ce virus, on est un petit peu à l'aveugle sur l'évolution, sur les semaines et les mois qui viennent. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour le faire en juin, parce que beaucoup de maires disent, là, en fait, ce serait bien qu'on en finisse et que ce chapitre soit bouclé. Et ça, Emmanuel Dutheil pourra dire aussi à quel point économiquement c'est important.
Bah voilà, alors Emmanuel et puis le docteur Jimmy Mohamed, si vous voulez nous en dire aussi un mot sur le plan sanitaire. Emmanuel, c'est vrai qu'économiquement, c'est compliqué, ça met tout en stand-by.
C'est un énorme problème au pire moment. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand les maires arrivent sur la fin de leur mandat, c'est pas là où ils vont lancer une grosse dépense. Donc là, pendant plusieurs mois, au pire moment, puisqu'au moment de la crise du confinement, quand déjà l'activité était déjà en partie à l'arrêt, vous n'avez rien qui se lance. Et rien ne pourra se lancer. Quand je dis se lance, c'est-à-dire construire un lycée, construire une école. Alors les maires ne sont pas décisionnaires pour les lycées, mais construire une école, construire la route, la bibliothèque du coin, c'est des chantiers qui font tourner le monde du BTP et le monde du bâtiment. Ils sont très 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 dépendants en France de cette commande publique. Et tant que les nouveaux exécutifs municipaux ne vont pas être installés et ne vont pas être bien installés, rien ne se fera. Partons du principe que c'est la date de fin juin que ça va se faire. Vous croyez qu'un maire il va vous lancer le 12 août la construction de sa bibliothèque ? C'est-à-dire que rien ne va se passer, alors que s'ils avaient été mis en place en mars, comme la date devait être prévue, là vous pouviez imaginer que les choses se lancent, les dossiers soient commencés à être regardés. Donc voilà, du côté je peux vous dire que du point de vue économique, il y a une grosse inquiétude et eux vraiment, ils veulent que ce soit fin juin parce que si ça doit être mars de l'année prochaine, c'est la catastrophe qui s'ajoute à la catastrophe.
Et sur le plan sanitaire, pour boucler la boucle, docteur Jimmy Mohamed, on a vu que le compte n'y était pas pour l'instant. Les précautions, elles sont là, elles sont multiples et variées. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Rappelez-vous que le conseil scientifique a été plutôt sévère jusqu'à présent et a pris d'énormes précautions. Et donc on peut se dire que s'il considère que certaines conditions peuvent être remplies pour qu'on puisse assurer la vie démocratique, c'est qu'ils sont peut-être optimistes pour une fois. Alors malheureusement, c'est vrai qu'à l'échelle du temps, un mois c'est très peu, mais à l'échelle du coronavirus, ça semble être une éternité. Donc faisons un point d'ici 15 jours et peut-être, qui sait, on pourra peut-être vraiment assister au municipal dans des conditions, j'espère, sanitaires acceptables sans que par la suite on regrette ce geste.
Et oui, c'est ça, parce que ça a des conséquences sur 6 ans quand même, l'élection municipale. On en
oui,
prend pour
c'est quand même un mandat qui dure quand même. Donc autant choisir bien et dans bonnes conditions.
On va revenir vers vous, docteur Jimmy Mohamed, et on va filer en Corée du Sud avec vous dans un petit instant. Les grandes voix, on se retrouve. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Avec le docteur Jimmy Mohamed. Docteur, dites-moi, en Corée du Sud, les salles de sport, elles ont rouvert.
Oui, et certains se demandent ici quand est-ce que celles-ci vont rouvrir et en croire une étude coréenne, cela ne risque pas d'arriver de sitôt. Alors, pour remettre en perspective, au 30 avril, la Corée du Sud n'avait connu que 10 000 cas de Covid grâce à une stratégie très agressive de dépistage et d'enquête autour des cas. Et cette étude vient nous le confirmer. Alors, pour votre culture, sachez que la danse latino a son petit succès en Corée et il y a énormément de cours. Et d'ailleurs, au 15 février, des professeurs se sont entraînés durant 4 heures à la salsa, à la danse latine, sur les 27 qui ont participé. 8 ont eu une PCR à Covid positive. Tous étaient parfaitement asymptomatiques le jour de l'entraînement. Au 9 mars, 3 semaines plus tard, 112 cas de coronavirus au sein de 12 centres sportifs. La moitié des contaminations proviennent des professeurs directement aux élèves qui ne se sont vus que deux fois par semaine pendant des cours de 50 minutes. Aucun contact n'a été rapporté en dehors des cours. Un tiers des contaminations étaient intrafamiliales. Les élèves contaminaient leurs parents à la maison. Et sur les 112 cas, 70% des gens étaient asymptomatiques au moment du prélèvement, contre simplement 30% de symptomatiques. Les enseignements, ils sont multiples. Le premier, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche, et donc si on dépiste massivement, on trouve des cas. Et enfin, les salles de sport sont évidemment des lieux à haut risque de transmission. Il est donc possible qu'on ne les ouvre pas d'ici un petit moment.
Et on les referme, là, en Corée du Sud? La décision a été prise immédiatement ou pas?
Alors pour le moment, ils sont très vigilants puisque ils ont considéré qu'ils ont fermé les salles et ils ont une stratégie beaucoup plus agressive que la nôtre et les personnes sont en quarantaine, une quarantaine beaucoup plus stricte que chez nous.
Je reviens vous voir, docteur, dans un petit instant. Emmanuel Dutheil, on a eu ce plan d'aide européen hier annoncé par Emmanuel Macron, Angela Merkel, 500 milliards d'euros face à l'impact du nouveau coronavirus. Un plan d'aide très bien qui s'annonçait merveilleux comme ça pour tenter d'aider nos voisins en difficulté. Bon, ça c'est sur le papier, dans la réalité ça va être plus compliqué.
Oui, c'est vrai qu'hier avec Aurélie on était en joie parce que malgré tout ils avaient réussi à trouver un accord et déjà c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe ils ne sont pas que deux, a priori on est encore pour quelque temps 27, et que donc certains ont voulu se rappeler au bon souvenir des deux premiers de la classe en disant, et notamment l'Autriche, non, vous êtes bien gentils les gars, mais nous on n'a pas du tout envie que vous y alliez avec de la dette ou avec ce genre de choses. On veut être consulté et on veut véritablement pouvoir apporter notre jugement et surtout, on ne veut pas payer pour les autres. C'était le message de l'Autriche, mais c'est un message qui va être relayé également par certains pays du Nord qui sont très regardés. Mais ce qui est marrant, c'est que dès hier soir, en France, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui avait beaucoup travaillé, on n'aime pas le personnage, mais je peux vous dire qu'il a mouillé la chemise pour réussir avec son homologue allemand à construire ce plan. Dès hier soir, lui, il avait sa petite liste de courses, Bruno Le Maire. Il a dit, alors moi, ça va me servir.
C'est vrai.
Et je trouve que le mot qu'il a utilisé, lui qui parle si bien français, il ne peut pas s'être trompé, il a dit, il va falloir que nous rénovions l'hôpital. Ça va servir à rénover l'hôpital. Quand vous rénovez votre maison, c'est que ce n'est pas bon signe quand même. Hein. C'est que vraiment, il faut à peu près tout changer sauf les murs. Donc, ça envoie aussi un signal qu'il y a un état d'urgence. Donc, ça devait servir à ça. Ça peut servir à ça. Ça peut servir également à financer le plan de soutien à l'automobile, qui va être annoncé d'ici une quinzaine de jours, parce que c'est le cataclysme là aussi, dans cette filière.
Et l'aéronautique aussi, dans la foulée.
Le plan aéronautique. Donc c'est les trois visions de Bruno Le Maire à être financées. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Sauf si je dis une ânerie, c'est le mois prochain, en juin, qui est un Conseil européen sur lequel ils vont devoir réussir à se mettre d'accord. Ce serait vraiment politiquement un drame en Allemagne et en France
si jamais
on ne devait pas réussir à mettre ça en place, parce que là ça a quand même généré une forme d'espoir.
Bien sûr. Là où on n'a pas réussi à se mettre d'accord, Aurélien Herbemont, c'est entre le gouvernement et ce qu'on appelle désormais les frondeurs. En tout cas, ça y est, ils ont rompu, clairement.
Ils sont partis.
Neuvième groupe donc à l'Assemblée, c'est fait. Et il va falloir s'habituer. Est-ce que les frondeurs, d'ailleurs, les frondeurs sont les mêmes que ceux qu'on avait au PS à l'époque? On y reviendra après. Ce groupe-là, ça passe mal quand même dans les rangs de la majorité.
Alors, ça passe mal et en même temps, certains se disent que ça aurait pu être bien pire parce qu'ils sont 17. Je peux vous dire que ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu des missions d'ébranchage des députés qui étaient tentés de partir. D'ailleurs, ça a plutôt fonctionné puisqu'ils finissent à 17. Et donc, la majorité a officiellement, le groupe En Marche a perdu la majorité absolue. Ils sont 288 au lieu de 289.
Ça aurait pu être bien pire.
C'est très symbolique. Symboliquement, c'est clair que le message, le signal est quand même pas bon. Emmanuel Macron parle d'unité nationale, il veut du consensus. Et même dans son propre camp, certains s'en vont. ils auraient pu être plus nombreux, donc certains se disent, bon, après tout, c'était vraiment les plus rebelles. Mmh. Les
avec une ou deux figures quand même, un Aurélien Taché, par exemple. Avec il a toujours été frondeur, mais il est emblématique, Aurélien Taché.
C'était quelqu'un, un des tout premiers marcheurs. Effectivement, Aurélien Taché, député du Val d'Oise, mmh. très en pointe sur les questions de laïcité, et parfois en marge, d'ailleurs, de ce que peut dire et faire le gouvernement sur ces mmh. questions-là. Vous avez aussi une autre personne emblématique, Cédric Villani.
Bien sûr.
Mathématicien, médaille Fields, mais attention, Cédric Villani, il avait déjà été exclu dans Mars pour sa candidature dissidente. Donc en fait, dans ce groupe, vous en avez, alors j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais certains qui étaient déjà partis ou qui s'étaient déjà fait exclure. Donc ils sont 17.
Bon, alors après, il faudra voir. Écologie, démocratie et solidarité, hein, c'est les trois mots pour le nom de ce groupe. Est-ce qu'ils vont servir peut-être à Emmanuel Macron au final? On verra dans quelques instants avec vous. Docteur Jimmy Mohamed, on va vous retrouver dans un instant, bien sûr. On se parle des délais de contagion en cas de Covid. Il y a peut-être des éléments qui ont évolué là-dessus. À tout de suite avec les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, décidément, ce virus, il nous réserve des surprises systématiquement. Hein. On en sait un peu plus désormais sur le délai de contagion en cas de Covid, c'est-à-dire?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une PCR positive à Covid, ça veut dire qu'on détecte de l'ARN du Covid et pas forcément la présence du virus qui est viable. Au décours d'une infection, le patient peut continuer à excréter du matériel génétique, c'est-à-dire des petits morceaux du virus détruit dont le corps continue de se débarrasser. On a donc certains patients qui restent positifs à la PCR durant plus de 6 semaines après le contact avec le virus. Et donc la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que nous ne sommes plus contagieux.
C'est ça.
Et donc le critère de non-contagion et donc forcément de guérison dans une étude médicale sérieuse qu'on appelle le JAMA est défini par la disparition de la fièvre et des signes respiratoires comme la toux ou la gêne respiratoire et un délai supérieur à 10 jours après le début des symptômes. Néanmoins, il faut rappeler que près de 50% des gens sont asymptomatiques et que nous pouvons donc contaminer en plus des gens durant la période d'incubation, 2 à 4 jours avant les premiers signes cliniques de la maladie. On radote un peu, mais c'est une preuve supplémentaire qu'il faut absolument appliquer les gestes barrières de manière extrêmement rigoureuse.
Ouais, et puis dans un instant, vous allez nous dire aussi qu'on a détecté d'autres traces ailleurs et de quoi, encore une fois, nous troubler, je dois dire. Emmanuel Dutheil, l'industrie qui propose un dispositif pour accompagner la sortie du chômage partiel. Bah oui, parce qu'on le savait, hein, il y a une deadline.
Oui, effectivement, la deadline a été fixée au 1er juin et on attend les dispositions du ministère du Travail sur le chômage partiel, puisqu'on doit savoir dans quel secteur le chômage partiel va être maintenu et sous quelle forme, puisque ce n'est pas certain que les patrons pourront être remboursés à 100% des dépenses qu'ils font pour payer les salariés. Et justement, du côté de l'industrie, on dit, nous, cette levée du chômage partiel, ça va être un drame parce que ça va provoquer des faillites en masse. Et du coup, ils proposent un dispositif alternatif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le patronat et la plupart des syndicats de l'industrie qui le proposent, puisque c'est donc l'UIMM qui est le patronat de l'industrie, plus au minimum FO et la CFDT, et a priori la CGC devrait suivre aussi, donc on a quand même des gros syndicats qui suivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils proposent au gouvernement que quand l'activité de l'entreprise baisse et n'arrive pas à reprendre, on puisse baisser de 40% le temps de travail des collaborateurs. Baisser le temps de travail, ça veut dire baisser le salaire. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que l'État prenne en charge cette somme, ou en tout cas une énorme partie de cette somme, pour que la perte de revenus du collaborateur soit la plus limitée possible. Et derrière, les patrons disent, si on obtient ça, on s'engage à ne pas licencier pendant la totalité de la durée de l'accord. Donc ce serait vraiment quelque chose de tripartite, effort des salariés, effort de l'État et effort des entreprises. Du côté du ministère du Travail, on dit qu'on prend acte de cette proposition, mais que pour le moment, ils sont plutôt focus sur la sortie du chômage partiel. Et là, Muriel Pénicaud doit annoncer d'un jour à l'autre les nouveaux dispositifs. Mais c'est une idée qui, en tout cas, fait sens. Et ce qui est intéressant, mais ce qui va être extrêmement compliqué pour beaucoup de salariés, c'est qu'on voit bien que là, il va y avoir une pression dans beaucoup d'entreprises pour réduire le temps de travail et réduire les salaires. Donc ça montre bien à quel point, dans ce secteur de l'industrie, mais ce n'est pas le seul, le patronat et les syndicats voient que la situation va être Évidemment. Je suis désolé parce que Roger serait là et dirait mais tu nous fatigues avec tes nouvelles totalement déprimantes.
Mais dramatique.
Promis, demain, je vais essayer de trouver de bonnes idées qui seront très positives.
Ça fait quand même 12 millions de salariés qui sont à l'heure actuelle en chômage partiel, hein, pour rappeler un chiffre
Tiens, ça fait un bout de temps que Muriel Pénicaud ne nous a pas donné un chiffre nouveau, mais effectivement, le dernier qu'on avait, c'était 12,1 millions.
12,1 millions. Docteur Jimmy Mohamed, je reviens vous voir parce que vous allez vous aussi nous annoncer une nouvelle qui nous déroute: encore des traces de Covid détectées dans des selles qui seraient, attention, hein, actif et donc potentiellement contaminant. Mais c'est possible, ça?
Eh oui, c'est pas très glamour en plus. Alors on savait qu'il était possible de retrouver des traces du coronavirus dans des liquides biologiques, comme l'urine, le sperme, les sécrétions lacrymales ou même les selles, mais on ne savait pas si ces particules pouvaient être contagieuses. Une étude chinoise nous en dit un peu plus. Il semblerait que le Covid détecté dans les selles de ces patients soit actif et pourrait être un mode de contamination et de transmission de la maladie. Alors évidemment, il faut être prudent, mais cette conclusion fait écho à ce qu'il s'est passé en 2003 pendant l'épidémie de SRAS. À Hong Kong, 330 résidents d'une villa privée ont été infectés. L'enquête sur la structure du bâtiment a montré que les canalisations d'égouts défectueuses ont entraîné une aérosolisation des matières fécales contaminées qui serait la source de l'infection. Encore une fois, j'espère que là vous êtes convaincus qu'il faut absolument se laver les mains et respecter, je le répète, les gestes barrières.
Oui, bah oui, évidemment.
Donc, c'est bien, on est vachement rassurés.
Voilà. Bon, merci beaucoup les grandes voix. J'ai un petit doute sur le timing. Il nous reste une minute. Juste Aurélie Herbemont, je voulais revenir vers vous parce que, après toutes ces bonnes nouvelles, non mais c'est vrai, docteur Jimmy Mohamed, Emmanuel Dutheil, non, je me demandais, est-ce que sur les frondeurs, parce qu'on en parle désormais, donc écologie, démocratie, solidarité, voilà comment s'appelle ce groupe dissident, est-ce que ça pourrait pas s'avérer utile finalement ce groupe pour Emmanuel Macron sur la longueur? Est-ce que ça pourrait pas créer certains avantages?
Alors, certains vous disent dans la majorité, c'est bien gentil leur groupe, mais nous, on n'est pas du tout écolo, pas du tout démocrate et pas du tout pour la solidarité. C'est sûr qu'ils pointent des sujets qui sont peut-être moins pointés à certains moments, encore que ces derniers temps, le gouvernement parle bien d'un plan de relance qui sera teinté d'écologie.
C'est vrai.
Parce qu'on sait, on en parlait avec Emmanuel, et donc les chiffres absolument cataclysmiques et pas du tout sympathiques qui s'annoncent.
Le dit, hein. Tout doit être vert.
C'est ce qu'ils ont commencé avec Air France, par exemple.
Avec Air France et également avec Renault. Par exemple, chez Renault, ils disent très clairement pas un euro pour les véhicules thermiques. Il faut que le plan de Renault soit basé sur la croissance.
Et donc, dans la majorité et au gouvernement, on vous dit, c'est de toute façon, on veut y aller dans cette direction-là. Donc, ils ont un problème de timing. De toute façon, on veut faire ces choses-là. Donc voilà, il faut une petite piqûre de rappel.
Il va falloir qu'il le fasse quand même à un moment.
Et ben voilà, bon, on verra. Parce que c'est sûr qu'il va falloir le faire.
Ouais. Bon, on va suivre de près ce qui se passe dans ce groupe, en tout cas avec vous. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci, docteur Jimmy Mohamed, Emmanuel Dutheil, Aurélien Herbemont. Salut à vous, à demain.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy.
Avec Isabelle Millet à 19h. Rendez-vous et direction même Mayotte, durement frappée par le Covid-19.
Europe 1.